Bonjour à toutes et à tous, on est le 4 mai. Alors le 4 mai, c'est une date très spéciale pour les nerds hein, comme moi qui sont fans de Star Wars. C'est May Force, c'est May the Force be with you. Bon, c'est voilà, ça c'est la petite blague. J'y avais pas pensé avant de lancer l'enregistrement, puis quand j'ai vu la date, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, on est le 4 mai 2026. Et quelles sont les actualités? Il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup de choses. Il y a forcément ces derniers mois un écosystème qui fait beaucoup de bruit, une marque, une société, c'est la société Anthropique. Et j'ai envie de faire un petit focus là-dessus pour essayer de démystifier quelques petites choses. En fait, pour tout vous dire, à la base, l'idée, c'était de faire un post LinkedIn. Et je pense que je vais faire un post LinkedIn, d'ailleurs. Mais d'abord, je me suis dit, au lieu de faire une note vocale, enfin, une note dans le sens pas de mon podcast, mais faire un enregistrement pour préparer l'article LinkedIn, bah, je me suis dit, bah, je vais enregistrer une vraie note vocale du podcast. Et puis que je publierai, et puis comme ça, ça me servira de trame pour faire mon article LinkedIn. En fait, en gros, mon idée, ce que j'ai envie de faire, et je vous donnerai des news plus tard, mais là, on va se concentrer sur le sujet, d'autant que je me suis fixé un petit défi personnel, c'est d'enregistrer ce petit épisode de podcast et de publier l'article en 30 minutes, parce que j'ai un rendez-vous à 11h et qu'il est 10h33. Donc voilà. L'idée, c'est de faire un petit focus parce que je trouve qu'on entend tout et n'importe quoi. On entend toujours tout et n'importe quoi. Encore plus dans la tech, encore plus sur LinkedIn, au croisement des innovations de l'IA, de la technologie, de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, je me suis dit, ça vaut le coup de faire un petit tour d'horizon des différents sujets d'Anthropique, qui est une société à qui j'ai des sentiments extrêmement ambivalents. C'est aujourd'hui mon fournisseur d'IA, j'ai envie de dire préféré, dans le sens où c'est les modèles que j'utilise quand même le plus fréquemment depuis plusieurs années maintenant. J'ai même supprimé mes comptes OpenAI, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Et en même temps, je suis en train de considérer de le quitter, cet écosystème, pour différentes raisons. Je reviendrai peut-être aussi là-dessus, peut-être dans un épisode séparé. Mais là, ce que j'aimerais adresser vraiment plus spécifiquement, c'est voilà, cette notion d'écosystème que Anthropique a construit avec un grand succès. À la base, ils font des LLM, et maintenant, il y a tout un écosystème d'applications qui viennent autour, qui se développe très vite, qui fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de communication autour, il y a beaucoup d'emballement autour de cette communication, qui, je trouve, du côté d'Anthropique, est relativement, je dirais pas sobre, mais bon, c'est pas non plus communication très très trop agressive, mais elle provoque des sentiments extrêmement forts. Et donc je me suis dit, je vais prendre le temps d'essayer de démystifier un petit peu tout ça. Donc on va se faire un petit tour d'horizon de c'est quoi l'écosystème d'Anthropique, au-delà juste des modèles Claude, et puis essayer de voir un petit peu quelle est la réalité derrière tout ça, pour essayer de comprendre un petit peu. Alors on y va, allez c'est parti, on va pas tergiverser pendant 200 ans. Cet écosystème, il repose sur des modèles. Anthropique, ils ont un système extrêmement lisible, une nomenclature extrêmement lisible de nommage de leur LLM, donc de leur modèle de langage large. Ils ont trois tailles. Haiku, qui est la petite taille. Haiku, c'est un petit poème très court japonais en trois strophes, ou je ne sais pas comment on dit, pas trois strophes, trois. Je suis nul en poème, donc j'aurais pas dû me lancer là-dedans. Bon, bref, vous savez ce que c'est un haiku de toute façon. Ensuite, vous avez Claude Sonnet, qui est le modèle intermédiaire, qui est de taille moyenne. Donc, un sonnet, bon, c'est un petit poème. Et puis, vous avez Claude Opus, donc Opus, qui est un opus, une grosse œuvre, qui n'est pas juste un poème, mais un recueil de poèmes ou de. Voilà. Au cas où, si vous aviez jamais compris les noms, bah, voilà, ça c'est cadeau. Donc, on en est sur Haiku à la version 4.5, sur Sonnet à la version 4.6 et Opus à la version 4.7. Les numéros de version varient, ils ne sont pas toujours synchrones. C'est pas vraiment très important pour être tout à fait honnête. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que franchement, ces trois modèles sont très capables, que Haiku, dans beaucoup de tâches du quotidien, mais on va dire surtout dans l'usage répétitif, dans des automatisations, marche franchement très bien, et il est moins cher évidemment puisqu'il est plus petit. Sonnet, c'est le modèle maintenant que j'utilise au quotidien, et Opus, c'est le modèle le plus capable. Celui avec lequel, on va dire, que je réserve pour des discussions un petit peu stratégiques où j'ai besoin vraiment de réflexion, d'analyse un peu poussée de mes sujets, et aussi pour l'écriture. Donc, c'est celui que j'ai utilisé pour coécrire mes différents livres, etc. Voilà. Mais évidemment, vous le savez, il y a des sujets autour des limites de la consommation de tokens. Plus le modèle est gros, plus ça consomme des tokens. La version 4.7 de Opus consomme vraiment beaucoup de tokens. On atteint très, très vite les limites. Je reviendrai peut-être là-dessus après. Parce que ce point-là est important et il est lié aussi à la notion d'écosystème et il est lié au fait que j'ai potentiellement envie d'un peu quitter aussi cet écosystème. Et donc, ça, c'est les modèles. Donc, très franchement, je veux dire, on ne peut pas nier que sur les LLM, les modèles d'Anthropic sont très bons. Très franchement, Haiku et Sonnet ont de nombreuses alternatives. Nombreux modèles open weight, open source sont tout à fait aussi capables. Opus reste le modèle frontière peut-être le plus capable avec Gemini Pro 3.1 et GPT 5.5. Voilà. Et puis, il commence à y avoir peut-être certains modèles chinois qui s'en rapprocheraient. Le dernier DeepSeek, le dernier Qwen, peut-être. Bon, à voir. Ça, c'était très rapidement le point où on en est sur les modèles. Ensuite, il y a les interfaces. Vous le savez, les interfaces, c'est ce qui est en fait le sujet principal de cette révolution de l'IA, des LLM notamment, c'est cette notion de conversation. Ça, c'est la première interface. Il n'y a pas que ça comme interface, mais interface de conversation. Donc, dans l'écosystème Anthropic, vous avez Claude.ai, Claude Web, on pourrait l'appeler. Vous allez sur la version web. Vous pouvez discuter avec lui, il vous donne des réponses. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus capable, il est capable de générer du code, des PDF, etc. C'est dans la version web. Il ne peut pas accéder à votre ordinateur. Il peut éventuellement se connecter via les fameux serveurs MCP, via des API, à d'autres outils. Mais c'est un écosystème complètement fermé dans le sens cloud, pas sur votre ordinateur local. Ensuite, il y a le Claude Desktop App, qui est l'application native. Bon, en fait, là, il va y avoir plusieurs choses, donc je vais revenir là-dessus. Mais donc, dans la version native que vous installez sur votre ordi, qui n'existe que sur macOS et sur Windows, moi, je n'y ai pas accès sur Linux, mais ça ne me manque pas vraiment, on reviendra peut-être. Et donc, dans cette version-là, en fait, il regroupe un peu les différents produits. Donc, je vais sauter, et vous avez la version Android et la version iOS, donc la version mobile, où il y a la plupart des fonctionnalités web, plus une fonctionnalité qui s'appelle Dispatch, sur laquelle je vais revenir. Donc ça, c'est les moyens d'accéder. Les moyens techniques, c'est les logiciels, les applications que vous allez pouvoir installer. Donc la version web dans le navigateur, la version desktop et la version mobile. Derrière, il y a des produits. Il y a différents produits. Je vais commencer peut-être par ordre, on va dire, chronologique, parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Le premier produit qui est arrivé, c'est Claude Code. Claude Code, c'est une petite expérimentation à la base d'une personne chez Anthropic qui a changé le game. En fait, on s'en rend compte après coup, mais ça a tout changé, vous allez comprendre pourquoi. Claude Code, à la base, c'est un petit outil en ligne de commande, CLI, comme on dit, un CLI, certains disent en français, qui n'était pas le premier, hein, c'est pas les, il y avait déjà des choses, il y avait un outil qui s'appelait Aider, par exemple, il y avait plusieurs outils en ligne de commande où on pouvait faire du code. Donc, quand je dis du code, c'est-à-dire vous avez un assistant à qui vous demandez des choses et qui va coder en local sur votre ordinateur, qui va créer des fichiers de code et qui va vraiment vous faire tous des projets. Contrairement à quand vous travaillez dans Claude Web, comme on faisait avant, il vous générait du code, vous deviez le télécharger, assembler vous-même les fichiers, ce qui était très problématique, quoi. Alors, petite note, j'espère qu'on n'entend pas trop la machine à laver qui tourne derrière moi. Normalement, avec ce micro, ça doit le faire, mais voilà, s'il y a un petit bruit de fond, bah, vous savez ce que c'est maintenant. Alors, Claude Code a plusieurs... On ne va pas rentrer trop dans la description. J'imagine, de toute façon, si vous écoutez le podcast, vous savez à peu près ce qu'est Claude Code. Ce qu'il faut dire sur Claude Code, c'est que c'est très belle ingénierie. C'est-à-dire que ça marchait très bien et ça marche très bien avec les modèles de Claude. Claude étant très bon en code, eh ben, Claude Code fait qu'on tirait... On peut vraiment, grâce à Claude Code, tirer, en tout cas au moment où c'est sorti, c'est toujours vrai maintenant, tirer vraiment le meilleur profit de Claude Code. Et donc, en fait, Claude Code... Alors, il y a plusieurs extensions ensuite de Claude Code. On peut faire Claude Code dans des IDE type VS Code, JetBrains, etc. avec des extensions. Il y a une extension Claude Code pour Slack. Voilà, différentes choses. Mais voilà, Claude Code, c'est un concept en soi. C'est l'ingénierie qui permet de faire des projets de code assez avancés maintenant, hein, en utilisant les LLM de Claude. Donc, c'est toute la boucle itérative. Puisque vous le savez, hein, vous faites un projet de code, il y a plein de code à écrire. Ce n'est pas juste un appel à une API. Vous ne dites pas juste à une API, vas-y, fais-moi tel logiciel. Enfin, vous ne demandez pas juste à un LLM de faire ça. Vous demandez à un agent, en quelque sorte, hein, parce que Claude Code, c'est un agent de, qui va faire de multiples appels au LLM, qui va avoir des outils pour écrire du code, etc. Faire des tests, versionner, faire des choses vraiment intelligentes. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, maintenant on le voit a posteriori, c'est qu'en fait, Claude Code, le fait que l'équipe technique d'Anthropic, enfin même l'équipe produit hein, d'Anthropic, ait accès à ça, leur a permis, déjà, en utilisant Claude Code, d'améliorer Claude Code très vite, en utilisant Claude Code, d'améliorer un certain nombre de choses pour aider aussi à améliorer les LLM, etc. Mais surtout, ça leur a permis de développer plein de produits. Et en fait, tous ces produits, en réalité, quasiment, ce ne sont que des interfaces, des nouvelles interfaces par-dessus Claude Code. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. Et ces interfaces, elles ont été elles-mêmes développées avec Claude Code. Donc, ça leur a donné une espèce de vélocité qui fait qu'aujourd'hui, quelques mois, alors Claude Code est sorti il y a un an à peu près, exactement même un an, d'ailleurs je me souviens parce que c'est sorti juste avant que je parte au Japon fin février, donc là on est en mai, ça fait même un peu plus d'un an. Mais là, dans les derniers temps, une fois qu'ils ont vraiment amélioré le produit, etc., ben, ils ont sorti plein de choses. Première chose qu'ils ont sorti, qui est très très importante à mon sens pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est Claude Cowork. Claude Cowork, c'est, comme on dit en anglais, il y a une expression un peu, c'est en gros c'est Claude Code, c'est trois Claude Code dans un manteau, quoi. C'est vraiment une interface visuelle beaucoup plus accessible, parce qu'on ne va pas se mentir, Claude Code, tout le monde ne peut pas utiliser ça, franchement, ce n'est pas fait pour le grand public, c'est un outil qui est fait pour les développeurs. Mais en fait, on s'est rendu compte, et moi-même, je veux dire, j'utilise Claude Code pour bien d'autres choses que de faire du code. J'ai écrit un livre, littéralement, dans Claude Code. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Voilà, j'ai bien documenté tout ça. Donc, mais je l'ai fait en ligne de commande, en terminal, parce que moi, j'adore ça. Mais si on veut que des collaborateurs puissent bénéficier de cette puissance sans avoir à aller dans un terminal, et bien il fallait faire une interface un peu plus jolie. Et donc, c'est ce que l'on appelle Claude Cowork, donc un agent de bureautique local qui s'exécute sur votre ordinateur et qui va avoir la capacité d'aller modifier des fichiers sur votre ordinateur, alors avec certaines règles de sécurité. Et donc, vous allez pouvoir lui demander de faire le ménage dans certains dossiers, d'indexer des fichiers, de vous créer des fichiers Excel, vraiment de la bureautique, un assistant de bureautique. J'aime mieux le mot assistant que agent, parce qu'on comprend quand même avec le mot assistant que c'est, en fait, c'est une extension de ce qui était possible de faire dans Claude, dans la version web de Claude, mais couplé avec les capacités un petit peu locales de Claude Code. Donc c'est ça Claude Cowork, tout simplement. Et Claude Cowork, donc, il s'exécute à la demande, vous lui demandez des choses, il les fait, il peut mouliner pendant un certain temps, et puis il peut utiliser votre ordi. Notamment votre navigateur, et donc il peut faire des choses même qui nécessiteraient certains niveaux de sécurité, par exemple que vous soyez connecté. Alors, je vais donner un exemple qui serait une très mauvaise idée, mais vous pourriez lui demander de faire des virements de votre banque, par exemple. Il va ouvrir le navigateur de votre ordinateur, se connecter à votre banque, si vous êtes déjà connecté, ou alors vous pouvez être à côté et puis rentrer votre mot de passe, il continue les manips et il fait le virement à votre place. Quel est l'intérêt de ça? Je ne sais pas. C'est pas un très bon exemple, mais par contre, si vous aviez... Bon, admettons, on va prendre un exemple quand même, on continue. Si vous avez 10 virements à faire, ça peut être un peu fastidieux de faire à chaque fois pour vos 10 salariés les mêmes manips. Et bien là, il peut avoir un petit fichier Excel où il y a la liste de vos collaborateurs avec les salaires à verser, et puis hop, il fait une boucle itérative, comme ça il fait les 10 virements. Alors attention, si vous faisiez cet exemple-là, problème de sécurité, etc. Mais bon, théoriquement, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de Cowork. On met beaucoup en face de Cowork, OpenClaw, tous ces nouveaux agents autonomes qui ont fait beaucoup de bruit. Si vous écoutez ce podcast, encore une fois, il y a plein de contenu là-dessus. On en parle souvent avec Lucien aussi dans notre émission du AI Game. Voilà. Moi, je pense que Claude Cowork, c'est autre chose qu'OpenClaw. Il y a des choses qui peuvent se rapprocher, mais c'est une vision complètement différente de l'ère agentique de l'IA. Et ça, c'est hyper important à comprendre, à mon sens. Parce qu'il ne faut pas les opposer. OpenClaw, c'est la vision qu'on peut avoir des agents complètement autonomes sur des machines distantes, sur des ordis, des choses, mais qui n'est pas votre ordi. Je vous invite vraiment à ne jamais utiliser OpenClaw sur votre ordinateur à vous. Ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Par contre, d'utiliser Claude Cowork sous votre supervision, ça peut être très intelligent pour du local. Par contre, Claude Cowork, vous ne pouvez pas lui demander... il ne va pas travailler tout seul quand vous êtes en vadrouille, vous êtes en train de faire autre chose, il ne va pas se réveiller, faire des choses. Alors, On peut le programmer pour qu'il se réveille, mais si votre ordi est éteint, par exemple, bah, il va rien faire. C'est quand vous allez le rallumer qu'il va aller regarder toutes les exécutions qu'il a ratées de la programmation que vous auriez fait. Par exemple, si vous lui dites de se réveiller tous les jours, puis que vous partez en vacances, quand vous le réveillez, bah, vous partez en vacances une semaine, il va s'exécuter 7 fois, par exemple. Après, il y a une forme d'intelligence, apparemment, il ne va pas s'exécuter non plus en boucle trop, mais voilà, vous comprenez. Donc, ce n'est pas pareil. Ça, c'est vraiment un truc pour moi qui est très important à comprendre. Et c'est mon analyse, je peux me tromper, mais en tout cas, même si certains usages se rapprochent, parce qu'évidemment, il y a énormément de gens qui utilisent OpenClaw comme un espèce d'assistant personnel un peu glorifié, moi, je pense que c'est autre chose qu'il faudrait essayer de faire avec ces OpenClaw et Hermès, etc., tous ces agents. C'est plutôt des tâches où là, vraiment, ça va se passer sans interaction humaine et peut-être effectivement remplacer certaines tâches fastidieuses. Donc ça, c'est Cowork. Ils ont rajouté, il y a une fonctionnalité qui a été rajoutée ensuite qui s'appelle Dispatch. Et quand Dispatch est sorti, on a eu le droit à un de ces fameux élans sur LinkedIn qui a dit « Ah, ça y est, OpenClaw est mort, Anthropic a sorti Dispatch ». Encore une fois, démystification, Dispatch, ce n'est rien de plus qu'une petite télécommande pour Cloud Cowork. C'est la possibilité d'envoyer des commandes, des demandes à votre Cowork sur votre ordi depuis votre téléphone. C'est tout. Rien de plus. Franchement, ça n'est pas... Si votre ordi est éteint, il ne va rien se passer. Alors, il y a certaines choses qui peuvent se passer dans le cloud, mais globalement, ça n'est pas la même notion qu'un OpenClaw qui va être tout le temps allumé, à qui vous allez sans cesse en fait, lui envoyer des choses. Vraiment, son but de fonctionnement de dispatch, c'est, moi, juste une télécommande. Encore une fois, il y a des subtilités, je grossis un petit peu le trait, mais voilà. Des fois, je ne dis pas que ça ne peut pas être pratique, hein, attention. Hein. Vous avez votre ordi allumé, vous êtes parti en vadrouille, vous aviez oublié de récupérer un fichier ou de faire une petite modif dans votre PDF, enfin dans votre présentation PowerPoint et vous n'avez pas PowerPoint sur votre téléphone et vous n'avez pas d'ordi portable, vous demandez à distance, vous récupérez le truc, ça peut être génial. Hein. Mais voilà, c'est une autre approche, c'est autre chose. Ensuite, il y a un autre truc qui est sorti, c'est les routines. Ça, c'est une des choses les plus récentes. Cloud Routine. Cloud Routine, c'est un outil. Alors là, il y a eu tout de suite les messages, ah ça y est, N8N est mort, Make est mort. Bon, déjà, N8N avait tué Make, et puis N8N n'arrête pas de se faire assassiner régulièrement par OpenClaw, par Claude, etc. Non, il faut arrêter les bêtises. On a déjà parlé, allez lire mes articles sur l'automatisation. Je vais continuer à creuser d'ailleurs ces sujets-là autour de l'agentique. Mais tous ces outils-là, ils sont plus pertinents que jamais. Routine, c'est un outil, en fait, déjà. Alors, il y a différents cas d'usage, mais routine, c'est un produit en fait, qui vient, c'est une fonctionnalité, en réalité, on ne va même pas parler de produit, c'est une fonctionnalité de Cloud Code. Ce n'est pas une fonctionnalité de Cloud Cowork, c'est une fonctionnalité de Cloud Code, en tout cas pour l'instant. Après, il y a des choses qui bougent un peu. C'est une fonctionnalité de Cloud Code qui permet principalement, grâce à des webhooks, à des différents types de déclencheurs, de faire des actions sur le code d'un projet. Donc, par exemple, régulièrement faire des passes de sécurité sur un projet de code. Donc, ou alors, dans le cadre d'un pipeline de développement, faire passer, je ne sais pas, des outils d'optimisation, des choses comme ça. Alors, Anthropic, comme ils sont un petit peu facétieux, dans les exemples qu'ils donnent de routine, ils disent aussi que ça peut vous servir tous les matins à faire un résumé de tous vos emails et tout. Bien sûr, puisque tous ces produits, et c'est ça qui est fort avec l'écosystème d'Anthropic, et c'est justement ça le truc, c'est que c'est tout un écosystème, c'est que tout ça repose sur vos connecteurs. Donc potentiellement, vous pouvez connecter vos emails, vous pouvez connecter vos comptes GitHub, etc. Et donc, vous allez pouvoir avoir des flows récurrents. Ces flows, ils peuvent se déclencher soit sur votre ordinateur où il y a un Cloud Code, ou alors dans un ordinateur distant, parce que depuis un moment aussi, je ne l'ai pas dit, il y a une version, en quelque sorte, cloud de Cloud Code, qui est très très pratique, à laquelle vous pouvez accéder via le Cloud Web ou Cloud Desktop, et vous pouvez demander des tâches de code sur vos projets de code qui vont être réalisées par un agent distant sur une machine virtuelle, cloud, etc. Donc, ces routines, elles peuvent se déclencher aussi dans ce contexte-là. Mais, encore une fois, donc vous allez pouvoir déclencher du code, et donc, effectivement, c'est vrai que vous pourriez, dans ce code, faire un certain nombre d'actions qui seraient des actions comme vous mettriez dans Make ou dans N8N. Attention, vous avez très peu d'observabilité. À chaque fois que vous voulez modifier vos scénarios, vous ne modifiez pas juste un autre, vous tout modifiez. Vous devez réaliser certains nombres de connecteurs. Alors, il y a ceux qui sont disponibles dans Claude, mais les autres, éventuellement, bah, il faut utiliser, faut faire du code pour ça. Enfin, vous allez un peu réinventer la roue, là où N8N, Make, Zapier ont plein de connecteurs déjà disponibles. Donc ça, on pourra revenir là-dessus, mais cette notion d'automatisation agentique, elle est très limitée dans l'écosystème d'Anthropic, elle est possible, mais très franchement, pour moi, ce n'est pas l'usage à privilégier. Avec un OpenClaw, pourquoi pas? Parce que là, on va avoir quelque chose qui va tout le temps être actif, mais moi, je trouve que l'écosystème d'Anthropic, il a surtout vocation à une portée bureautique. Voilà, ça, c'est ça, quelque part, et toutes ces choses-là peuvent fonctionner dans un écosystème bureautique. Le futur du travail, vraiment, à mon sens, passe par ces différents outils que Anthropic est en train de mettre en place. J'aimerais apporter une alternative à ça, qui est Notion. Notion, toutes ces choses qu'on a décrites, enfin, partie, hein, pas le travail en local et tout, beaucoup de choses aussi sont possibles sur un niveau beaucoup plus abstrait et plus facile à prendre en main dans Notion, qui a des agents qui permettent de faire des actions, des choses comme ça, mais il n'y a pas la dimension locale qui a certains intérêts, il faut bien le reconnaître. Voilà, ça c'est tout le côté agentique qui repose en fait sur Claude Code. Et il y a des intégrations de Claude dans Office, dans Excel, PowerPoint, etc. Il y a une extension Claude dans Chrome, donc qui vous permet, même en dehors de Cowork, de, quand vous êtes dans Chrome, d'utiliser, de demander des tâches à Claude qui peut aller faire des clics, etc. Donc ça, c'est un concurrent à OpenAI, Atlas, toutes ces choses-là. Bon, il y a Gemini aussi dans Chrome maintenant qui arrive. Voilà, tout ça, je mets un peu de côté, mais c'est, pour moi, ça, c'est intéressant dans le cadre de Cowork. J'en vois pas forcément d'usage directement dans le navigateur, mais par contre, dans Cowork, où votre navigateur fasse des choses dedans, oui, parce qu'en fait, dans Cowork, on va être dans une logique un petit peu où on va réfléchir ses process et on va demander des choses, et puis pourquoi pas. Mais en tout cas, les capacités sont là, c'est ça qui est important. Et ensuite, il reste un dernier point qu'on n'a pas évoqué, évidemment, je vais le garder pour la fin, parce que c'est le dernier meurtrier en date, celui qui a assassiné Figma, c'est Claude Design. Alors, on a beaucoup dit que voilà, c'était le tueur de Figma. Figma a même perdu, je crois, une dizaine de pourcents en bourse le jour où Claude Design a été annoncé. En réalité, c'est aussi... Alors, c'est pas du tout déjà un tueur de Figma, ça, on va le dire tout de suite. Par contre, effectivement, ça se rapproche beaucoup d'un Gamma, par exemple. Gamma, qui est un outil que vous connaissez peut-être, qui permet notamment de générer des slides, mais pas que. Bon, ça, effectivement, ça s'en rapproche. Alors, qu'est-ce que c'est Claude Design? Claude Design, c'est encore une fois une surcouche de Claude Code. C'est rien de plus que ça. Une surcouche très, très propre, très, très simple, qui vous permet de demander à Claude de vous faire du design web, mais pas que, mais principalement du design web, donc de prototyper des applications, des sites web, des choses comme ça. Et donc, c'est un niveau d'abstraction très haut, très simple, qui va bénéficier, encore une fois, comme c'est dans l'écosystème, des skills, etc. J'en ai pas beaucoup parlé des skills, mais sinon après ça va être très long, mais des skills, de vos connecteurs, vous pouvez partager ça avec vos collègues, ça c'est aussi un gros point de l'écosystème anthropique, le mode Teams. Et donc, en fait, à partir de tout ça, eh bien, vous pouvez lui demander, donc vous pouvez dire, vas-y, je veux une application néo-brutalisme de formation pour des mini-cours, et il va vous faire toutes les maquettes. Il va vous faire toutes les maquettes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça vous fait du code. En fait, il vous fait les maquettes, en fait, il vous code l'application, en tout cas le front-end. C'est rigolo, d'ailleurs, il y a un exemple, par exemple, j'aime bien citer ce truc-là. Il y a un exemple, si vous lui demandez, par exemple, de faire une maquette d'une calculatrice, ben, en fait, la calculatrice, ça va marcher, quoi. Parce qu'en fait, c'est du code. Dans Figma, si vous faites une maquette d'une calculatrice, d'une petite application qui permet de faire des calculs, ben, vous aurez des boutons, mais il ne va rien se passer, en fait, quand vous appuyez dessus. Ben, en fait, dans Claude Code, il va se passer quelque chose parce qu'en fait, il va vraiment la coder. Il va vous coder vraiment le front-end. Et donc, c'est là où c'est autre chose, en fait. C'est très malin, ce qu'ils ont fait. Mais en fait, ils ont juste fait un petit front par-dessus Claude Code, très accessible, mais orienté design, avec évidemment, probablement, des master prompts, des choses comme ça, design. Vous pouvez faire des slides aussi, ce que vous pouvez faire depuis bien longtemps dans Claude. Depuis bien longtemps dans Claude, si vous lui dites « fais-moi des slides », il va vous coder des slides. Moi, je le fais vraiment depuis longtemps. Et même depuis quelques temps, il peut même vous faire des présentations PowerPoint. Mais hop, ils ont bien packagé tout ça. Attention. Alors, ça se rapproche beaucoup. Le vrai concurrent, c'est Google Stitch, dont j'avais parlé déjà dans une matinale, que je trouve assez chouette aussi. Mais ça n'a pas de rapport avec Figma. J'aimerais insister là-dessus. Des designers professionnels ne vont pas utiliser uniquement Cloud Design. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas l'utiliser, ils peuvent l'utiliser. Mais dans Figma, vous avez tout. En fait, Figma, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil pour modifier, pour créer, modifier des designs. Dans Google, dans Cloud Design, quand vous faites un design, si vous voulez retoucher certains éléments, vous devez à chaque fois demander, vous devez prompter Cloud pour qu'il fasse ces modifications. Un designer professionnel, il va dans Figma, il fait hop, des clics, il connaît tous les raccourcis par cœur, en quelques secondes, il modifie son interface, il fait des variations, il fait plein de choses qui n'ont pas lieu de passer par une IA. Et évidemment, Cloud Design, ils n'ont pas reconstruit toutes les capacités de modification d'un Figma. Je ne parle même pas de la partie collaborative de Figma qui est extraordinaire aussi. Donc vraiment, ça n'a pas de rapport. Par contre, je peux complètement imaginer qu'un designer aille dans Cloud Design, dise « Ok, fais-moi quelques inspirations pour une application, hop, il exporte dans Figma et puis là, il modifie. » Pourquoi pas ? Pour un développeur, c'est pareil. Tout ce qu'on pourrait faire dans Cloud Design, on pourrait le faire directement dans Cloud Code. Hop, fais-moi quelques inspirations. Mais c'est plus lisible, c'est plus sympa de le faire dans Cloud Design et puis récupérer, parce que par contre, évidemment, comme tout ça, c'est du code en fait, en dessous, on peut tout récupérer et ensuite déclencher un vrai projet de code dans Cloud Code et tout. Donc vous voyez, Cloud Design, c'est vraiment l'exemple parfait de, d'un point de vue anthropique, écosystème et tout, c'est génial, c'est ce qu'il faut faire, c'est proposer des abstractions très hautes, des cas d'usage très définis pour sortir du côté très généraliste de Cloud Code et très peu accessible. Et ensuite, il suffit de laisser Internet et LinkedIn s'emballer et avoir des messages tout à fait, un peu excessifs. Alors, parce que franchement, je n'ai pas vu chez Anthropic personne dire on a tué Figma. Mais par contre, donc voilà, ça, c'est vraiment, ça me tenait à cœur de le dire. J'ai déjà évoqué un peu ces choses-là, mais j'avais envie de tout synthétiser un peu. Voilà. Alors, pour terminer, parce qu'il est 59, j'aurais pas du tout réussi à faire aussi le post LinkedIn dans ces 30 minutes. Mais je trouve que cet écosystème, il est génial. Il est très impressionnant d'un point de vue produit, vraiment. Et c'est pas un hasard, hein, c'est le responsable produit de Anthropic est un des cofondateurs d'Instagram. C'est de multiples sources, hein, un des plus grands product manager, designer de la Silicon Valley, on va dire, de la tech. Et donc, voilà, ça se ressent, ils vont très vite. Ils ont à leur disposition l'IA qui leur permet d'itérer très vite. Donc, eux-mêmes utilisent leurs propres outils. Donc, tout ça est assez brillant. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est un écosystème dans lequel on va être complètement enfermé. Et c'est ça qui m'ennuie, c'est que moi, je suis à un stade de ma vie là où j'essaye de sortir notamment de l'écosystème de Google. J'en parle souvent et je vais encore vous en parler, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de documenter. Mais donc là, je me dis, en fait, je vais me faire enfermer à nouveau dans l'écosystème Cloud. Alors, pour être honnête, en fait, à titre personnel, je ne me sens pas vraiment enfermé dans l'écosystème Cloud parce que de toute façon, en étant sur Linux, il y a plein de choses auxquelles j'ai pas accès. Et par contre, j'utilise beaucoup Cloud Code. Et c'est pour ça déjà que depuis beaucoup de temps, et vous le savez, hein, j'utilise en fait beaucoup Open Code pour ne pas être prisonnier de Cloud, et j'utilise Open Code avec différents modèles. Et il y a des initiatives comme OpenWork, par exemple, ou Open Cowork, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, moi, qui essaye de faire une alternative à Cowork. Enfin, donc, il y a des alternatives. Donc, moi, j'ai envie d'utiliser les alternatives open source et avoir le choix des modèles, parce que évidemment, dans tout cet écosystème Anthropic, vous ne pouvez utiliser que les modèles d'Anthropic, et donc, vous ne pouvez que consommer vos tokens. Toutes ces choses-là consomment les mêmes tokens de votre abonnement, et donc, forcément, ça va très vite. Et donc, forcément, je veux dire, il faut le plan à 20 euros. Si vous utilisez et du design, et du chat, et du machin, et tout, ne vous suffira pas. Et en même temps, je peux le comprendre, tout ça va vous faire gagner tellement de temps que ça fonctionne bien. Et donc, je comprends que de nombreuses entreprises fassent le choix de passer dans cet écosystème parce qu'aujourd'hui, c'est la décision rationnelle à faire pour tirer profit le mieux possible de l'IA. Est-ce que c'est le cas sur le long terme? Je ne pense pas, parce qu'il y a un vrai risque. Déjà, on le sent en ce moment, il y a beaucoup de problèmes de performance chez Anthropic. Il y a beaucoup de problèmes, toutes ces questions de subvention. Donc, tout ça fait que il faut être prudent. Donc, moi, je vais essayer de documenter les alternatives à ça. Mais voilà, j'avais envie, j'espère que j'aurai réussi. Vous n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer un petit message comme d'habitude. Mais voilà, démystifier un petit peu ce qui se passe avec tout cet écosystème Anthropic. Il n'y a pas de tueur d'application. Tous les SaaS ne vont pas mourir à cause de ça. Par contre, il y a un très bel écosystème, effectivement, qui est conçu de manière très rapide, avec des produits qui sont simples, ça qui me plaît, tout est assez minimaliste et très pertinent, va droit au but et s'appuie sur les meilleurs modèles. Mais attention, tout ça vient avec un prix, celui de la perte d'indépendance. Allez, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt.